grande nouveauté aujourd'hui. Oui, contrairement à d'habitude où on débrief et on résume chaque épisode les uns après les autres, bah pour ce débrief de la rédac, on va faire autrement. On va essayer un nouvel exercice et on a besoin de vous tous. Ouais, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Alice, bonjour à toi. Est-ce que tu veux nous présenter ce nouveau débrief de la rédac?
Coucou PPC, bonjour à tous. Bah, avec plaisir. En fait, l'idée, elle est venue avec Laura, notamment quand on était en conf de rédac du Digital pour tous. On se demandait comment rendre l'épisode du vendredi plus riche. Et on s'est dit qu'au lieu de revenir sur ce qu'on a retenu de chacun des épisodes séparément, et accessoirement de tout vous spoiler, on pourrait plutôt aborder ensemble ce à quoi ils nous ont fait penser, s'ils ont provoqué des déclics, et ainsi d'ouvrir la réflexion pour que ce soit plus conversationnel, plus incluant avec les auditeurs en live, mais on l'espère aussi plus riche pour tous, même en replay. Et comme on fait pas mal de veille, qu'on lit beaucoup dans la rédac, ça pourrait être l'occasion de partager pas mal de sources en lien dans les podcasts et sur le site du Digital pour tous, une sorte de fil rouge augmenté. Ça te paraît bien résumé ?
Ça me paraît extrêmement bien résumé. L'idée, vous l'avez compris, hein, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'un simple rappel des épisodes et se servir finalement des épisodes comme une base de lancement pour qu'on puisse élever la réflexion et pour qu'on puisse permettre à chacun de repartir très riche, enrichi d'une nouvelle matière à penser, de nouvelles idées à mettre en œuvre pour vos vies pro et pour vos vies perso. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va vous demander dès maintenant de sortir vos pelotes, ouais, vos fils rouges pour vous qui êtes en direct et nous indiquer dès maintenant en commentaire si vous avez trouvé un fil rouge pour cette semaine. Je vous rappelle quel était le programme de la semaine. Lundi, on a eu un épisode avec Lucie Léger, comment gérer son boss. Mardi, problème technique, un pivot. Allez, l'invité, une automation qui n'est pas partie, l'invité n'a pas reçu l'invitation. Voilà ce qui se passe. Et donc, on doit pivoter et faire un live voilà sans filet, complètement du vrai live, du très brut de chez Brut. Mercredi, on a parlé des objets tech durables. Et puis hier, jeudi, pas d'épisode le matin, mais il y avait la nuit du Web 3. Voilà, mais vous n'y étiez peut-être pas si vous êtes aficionados de ce matin. Alice, quel est ton fil rouge parmi ces trois épisodes ou ces trois événements de la semaine?
Alors, le fil rouge que j'ai trouvé entre les épisodes ou les rendez-vous, on va dire, si on inclut l'année du Web 3, c'est l'évolution des comportements, l'évolution des us et coutumes et pour être plus précise, la nécessaire transformation. Qu'elle soit dans la relation managériale, dans nos habitudes de conso ou dans le Web 3, ça doit changer, on en attend beaucoup, mais il y a encore beaucoup de boulot.
Il y a encore beaucoup de boulot, c'est vrai. Moi, de mon côté, j'ai trouvé un fil rouge qui est finalement peut-être le pouvoir de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si je prends les trois sujets de la semaine, finalement, j'inclus d'ailleurs l'automation qui n'a pas marché. Je pense que dans les trois épisodes, le sujet, quand je pense à l'expérience utilisateur, c'était l'importance de prendre en compte l'expérience utilisateur. On l'a abordé finalement dans le premier épisode avec Lucie. Il y avait une question de comprendre les besoins de son supérieur hiérarchique, de son boss, ouais, parce que on a appris ça. Si on comprend pas ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu son expérience utilisateur à lui aussi. Dans le deuxième, moi j'ai essayé de vous offrir finalement la meilleure expérience, c'est-à-dire de rebondir. Finalement, vous étiez venu prévu, l'invité n'a pas reçu son automation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, j'ai pensé à ceux qui étaient pendant le direct, qui étaient là. Puis dans le troisième, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Hein, c'est les consommateurs sont encouragés à acheter des produits plus durables pour améliorer aussi l'expérience d'utilisation long terme. Et on voit bien que ça peut influer aussi. Et donc, il y a ce travail qui a été fait par Benoît Delporte et son équipe chez Bilang. Est-ce que tu veux que je développe ou on commence à prendre les quelques fils rouges qui viennent d'arriver? Alice, qu'est-ce qu'on fait?
Comme tu veux. Je peux commencer. C'est vraiment...
Il y a un fil rouge qui est arrivé, c'est celui de Anne qui nous dit il faut s'affirmer autrement. C'est une bonne base. Hein. Voilà, mais bon, on peut développer peut-être.
C'est vrai qu'elle permet de s'affirmer autrement. Ça me fait penser vraiment à l'épisode de lundi. On a quand même beaucoup parlé de l'évolution des comportements dans le cadre de l'entreprise et la transformation qui est nécessaire aussi du point de vue hiérarchique, horizontal ou vertical. Donc, ça fait longtemps hein, que les modèles hiérarchiques, c'est un vrai sujet, qu'il y a pas mal de structures qui passent ou tentent de passer un modèle vertical, d'un modèle vertical à quelque chose de plus horizontal. Et là, on voit que, au-delà de que c'est nécessaire pour s'affirmer autrement aussi, comment dire, il y a aussi un biais technologique et qui pousse dans ce sens. D'ailleurs, je pensais pendant l'épisode avec Lucie, on allait plus parler des questions technologiques. On est resté très axé sur la psyché. C'était plein de bons conseils. Tu sais que je suis adepte de la CNV, de l'OSBD, mais ça m'a fait penser à toute la dimension tech aussi, où il va falloir driver son boss, l'aider à maîtriser les nouveaux outils, comme on peut imaginer aussi dans une école où les jeunes pourraient être amenés à aider leurs profs, potentiellement peu formés aux nouvelles tech, au Web3, à prendre en main les outils et les codes. Moi, je suis prof en parallèle de mon métier et j'apprends beaucoup au contact des plus jeunes, même si c'est moi qui viens donner cours. Donc, sentir les tendances, voir ce qui se dit et comment, il faut casser l'image de cette relation horizontale, voire unidirectionnelle, et savoir s'affirmer autrement, quel que soit son rôle dans la relation.
Ouais, moi aussi, j'aime bien ce fil rouge de Anne hein, sur le fait de s'affirmer autrement. C'est aussi à quoi ça me fait penser. C'est finalement cette logique d'augmenter son pouvoir en allant vers les autres. Tu sais, c'est le rebond, et j'avais cette discussion cette semaine. Tu sais, d'habitude, bon, il y a longtemps, avoir l'information, c'était avoir le pouvoir. Et on voit aujourd'hui, finalement, la partager, la donner à l'autre, permettre aux autres, grâce à cette information, de se développer, c'est aussi, et je pense, d'abord un super pouvoir, comme le dirait Aurélie Jean qui est passé dans ce podcast. Et c'est aussi, elle a raison, une façon de s'affirmer. Je crois que c'est s'affirmer, c'est-à-dire que ce n'est pas se poser en s'opposant, mais se poser en ouvrant les bras et en donnant aux autres. Je pense que c'est très Web2. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alice.
Bah, si le savoir, c'est effectivement encore un pouvoir, mais disons qu'il est beaucoup plus partagé de par les usages de tous. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça transforme la relation.
Ouais. Je prends un autre fil rouge. C'est Vincent qui nous dit « Vision disruptive inverser le management, inverser l'invité, inverser les valeurs ». C'est bien résumé, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, on retourne la table dans tous les sens, comme tu dirais là. Mais ouais, complètement, complètement.
Ouais, c'est bien vu. Autre fil rouge, Vincent, la vision disruptive inversée est très intéressante. Ce qui me fait penser, quand je rebondis sur toi, tu sais, on parle souvent du CRM, hein, le Customer Relationship Management, et il y a un peu plus de 15 ans, je me souviens d'un concept qui s'appelait le VRM, c'est le Vendor Relationship Management.
C'est
l'inverse. On donne finalement le pouvoir et les outils aux consommateurs pour pouvoir décider, finalement, plutôt que de dire je vais faire un achat, je vais lancer un appel d'offres, et quels sont les meilleurs vendeurs autour de moi. Donc, en fait, c'est donner des outils de CRM à chacun, ce qui change tout. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que finalement, il y a un peu ces préceptes-là dans le Web3, avec les NFT nouvelle génération. On n'a pas pu faire l'épisode avec Carlos, mais on voit bien qu'il se passe d'autres choses et que ça va permettre peut-être d'ouvrir des conversations différentes. Donc voilà, merci Vincent pour ce côté vision disruptive inversée. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Alice.
Non, mais ouais, le VRM, je m'en rappelle, c'était Valérie Peugeot à Orange Labs qui en parlait super bien et justement qui expliquait que justement ça pouvait participer à la communication de demain. Donc ouais, du disruptif inversé en quelque sorte.
Ouais, c'est un peu ça. Tiens, fil rouge, autre fil rouge, c'est celui de notre ami Charles. Il nous dit « faire tourner la table des inchangeables ». Tourner la table des inchangeables, qu'est-ce que ça signifie? Comment tu perçois ça, Alice, de ton côté?
Des choses qui paraissaient très fortement établies depuis longtemps, comme gravées dans le marbre et que finalement, pas tant. Et que si on veut vraiment que ça change, il faut réussir à faire sauter un petit peu les fondements, les inchangeables.
Ouais, c'est ça, les fondements, les inchangeables. C'est vrai que j'aime bien ça parce que on pourrait rebondir, et c'est Anne qui le prend, finalement, je me suis affirmé autrement quand l'invité était absent. Merci pour me signifier le roi de l'adaptation. Non, c'est, en fait, c'est le sujet de se dire, allez, ce podcast, je le fais. Pourquoi? En fait, c'est une conversation, c'est une envie d'être avec vous le matin. Et donc, je me lance, on y va, sans filer. Et il y a un sacré lâcher prise à avoir, hein, je vous assure, c'est l'exercice est pas simple du tout parce que ça, il faut accepter le lâcher prise. Et puis, Ben, ça fait plusieurs fois que c'est arrivé et je vous avoue, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que vous êtes là au rendez-vous, vos réponses sont présentes et tout d'un coup, ben, on s'aperçoit qu'on peut construire ensemble cet épisode totalement en live. Alors, c'est pas forcément les meilleurs épisodes du monde, ça c'est clair, mais finalement, on arrive à converser et je pense que c'est la partie qui est très intéressante. Et puis, ce qui s'est passé mardi, ça m'a rappelé et ça rappellera, je pense, aux anciens de ce podcast, le temps de Périscope, vous voyez, quand j'ai démarré, j'étais dans la rue avec mon simple téléphone. On savait pas quel était le sujet dont on allait parler et c'était en live. Et puis, il y avait les commentaires, chacun ramenait son sujet et puis on construisait comme ça un podcast. Et puis, le lendemain, enfin, en fin d'émission, on disait, bah, de quoi voulez-vous qu'on parle demain? Et puis, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Ça me rappelle le bon vieux temps. Et toi, Alice?
J'ai connu les balades au bord de Seine où on comptait les klaxons, etc. Non, et plus sérieusement, qu'on abordait des sujets, ça pouvait vraiment partir dans plein de directions. C'était passionnant. Non, mais c'est vrai que tu sais quand même bien t'adapter.
Merci, c'est gentil. Alors, j'ai trouvé des fils rouges parce que moi, ça m'a fait gamberger, en fait, cette histoire. Et puis, bon, le fait qu'on change un peu les règles avec ce rendez-vous, ce nouveau débrief, nouvelle génération, je sais pas, ou nouvelle formule, on va dire nouvelle formule. Je me suis dit aussi, il y avait un fil rouge qui est peut-être l'importance de la transparence. Dans les trois épisodes, je pense qu'il y a finalement la transparence était là, c'était un peu un élément clé, et justement la transparence pour établir une relation de confiance. Dans le premier épisode avec Lucie, elle nous l'a dit, hein, c'est important d'être aussi transparent avec son supérieur hiérarchique, ça permet d'établir une communication saine, ça permet de dire les choses, il faut traiter les choses, et donc il y a ce côté... On va dire les choses, on va être transparent et on va pas laisser grandir des incompréhensions, etc. Bon, dans le deuxième, effectivement, bah, j'étais très transparent avec vous parce que je vous ai dit, bon, ben voilà ce qui s'est passé. Je vous ai aussi montré les coulisses, hein, de mon organisation avec les automations et puis le bug, le truc que j'avais pas prévu, ben finalement, quand on fait quelques automations, c'est sympa, mais quand il y a un petit grain de sable dans cette histoire, c'était une invitée qui a dû décaler, et ben, l'automation n'a pas renvoyé au nouvel invité, et finalement, ben, il s'est retrouvé, c'était pas dans son agenda, donc, comme d'habitude, comme on dit, hein, quand c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Et puis, dans le troisième épisode avec Benoît, là aussi, c'est l'importance de la transparence, hein, puisqu'en fait, on se rend compte avec ses notes sur les produits, eh ben, il y a plus de transparence qui est demandée aussi aux fabricants sur les matériaux utilisés pour produire des produits plus durables, en fait, hein. Et puis ça permet aussi d'instaurer aussi une relation de confiance avec les consommateurs. Donc, transparence et confiance, j'aurais dit plutôt honnête que transparent, nous dit Charles. Eh, c'est pas faux, t'as raison, c'est peut-être le bon mot. Tiens, autre.
Tu peux rebondir sur le honnête.
Vas-y, ouais, vas-y, rebondis sur le...
Parce que justement, tu disais juste avant, donc moi, la transparence sur nos usages quand tu revenais sur l'épisode de mercredi, et la transparence ou l'honnêteté, on a beau la voir, enfin, dans certains domaines, faut encore qu'elle soit entendue. Donc, comme je te disais avant, moi, mon fil rouge était sur la transformation nécessaire, et je rebondis dessus parce que sur nos habitudes de consommation, sur l'épisode de mercredi, et l'urgence totale de les modifier. Pas juste, voilà, de faire une évolution, mais vraiment une révolution. Et ça m'avait fait penser au livre de Timothée Parikh, où tout est dit dans l'économiste, où tout est dit dans le titre, hein, c'est ralentir ou périr. Donc, comment dire, c'est pas bien clair dans nos cerveaux, mais on en est là. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais poster l'image que je t'avais mis dans le doc qui résume assez bien la situation?
Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode, mais là, je peux pas le mettre à l'écran. Mais je vais mettre le lien dans les notes d'épisode.
On va vous partager une image qui montre vraiment bien la taille de la transformation nécessaire. Donc, le GIEC le dit dans tous les sens. Il y a des économistes comme Parikh ou comme d'autres qui l'écrivent, le démontrent, qui sont, voilà, dans l'honnêteté, dans la transparence. Mais il faut encore pouvoir et vouloir l'entendre. Ce qui nous donne parfois des qui aurait pu savoir, même si on va pas faire de la politique ici, hein. Voilà, pour une note plus humoristique, même si elle est pas si légère, rappeler les mots de Coluche qui disait qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça arrête de se vendre.
Celle-là est excellente. J'adore. Ouais, sacré Coluche, il manque un peu quand même. Il manque un peu de temps en temps. Je sais pas comment il aurait réagi. Ça me fait penser, toi, ce sujet-là sur Coluche. Comment agissent les humoristes en ce moment? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient permises du temps de Coluche, d'autres des proches ou autres. Et puis, ben là, c'est différent. Je suis allé à un spectacle de stand-up, et j'ai trouvé que les humoristes, en fait, faisaient un boulot remarquable.
Oui.
Parce que c'était juste. Et puis parce que, en fait, ils avaient pas les mêmes peut-être les mêmes codes ou les mêmes, on va dire aujourd'hui, on dirait les lourdeurs qu'il y avait à une certaine époque avec certains humoristes, hein, où ça descendait souvent en bas de la ceinture, certaines catégories de personnes. Là, la ligne est très très fine, ils peuvent approcher un peu, mais ils y vont pas tout à fait. Tu partages ça?
Oui, oui, ça dénonce, ça balance. Et après, quand tu dis ils y vont pas complètement, ça dépend si on se base sur le stand-up américain ou sur le stand-up français. Franchement, les Américains vont encore plus loin et sont vraiment toujours à la limite, vraiment à pied, vraiment sur la ligne jaune. Moi, je vois, enfin, il y a pas mal d'humoristes, enfin, des Pierre-Emmanuel Barré, des Walidia que j'ai la chance de voir très prochainement. Enfin, il y a beaucoup de ça dénonce et justement ils arrivent à avoir ce regard sur la société. Je pense que c'est des nouveaux, peut-être des nouveaux influenceurs.
Ah, c'est peut-être une bonne idée, les nouveaux influenceurs. Charles dit oui, Alice, tu as raison. Il y a le message, le messager et le destinataire. Et les trois doivent être alignés. Ouais, ça, c'est très, très juste. L'alignement, c'est un gros sujet, hein. C'est d'arriver à être aligné. C'est pas forcément aligner les étoiles, mais c'est de se faire en sorte d'aller. Est-ce qu'on est d'accord sur cette façon d'avancer? Et je pense que ça amène aussi derrière l'alignement tous ces sujets de gouvernance qu'on peut avoir en entreprise et qui font que finalement, on arrive à avancer dans le même sens, dans le bon sens, dans des univers qui sont extrêmement complexes, qui sont en train de changer en permanence. Très rapidement, des évolutions, on en a connu, il y en aura d'autres et ça s'accélère un peu, hein, dans ce monde qu'on appelle le monde VUCA. Bref, Coluche, tiens, nous dit Charles, était déjà censuré à son époque. La différence aujourd'hui, c'est qu'elle vient aussi des gens, par les réseaux sociaux, l'horizontalité amène aussi cela. Ouais, c'est-à-dire que le bruit des réseaux sociaux aussi joue beaucoup, hein.
Oui, mais après les réseaux sociaux, comme tous les possibilités techno mises à notre, enfin c'est des outils. Faut jamais oublier, c'est des outils, donc capables du meilleur comme du pire, des plus beaux échos et des pires reflets de la société. Mais ouais, ils ont aussi cette force-là de pouvoir faire d'aider à l'horizontalité, à faire ressortir des discours.
Bah, tiens, et Christina nous dit, bah, l'humour est une arme clé. Ouais, c'est vrai, ça, l'humour. On peut faire tellement de choses avec le sens de l'humour, voilà, et donc le faire avec peut-être le sourire et puis toujours une petite pince. Je sais pas, quand est-ce que la dernière fois que vous avez fait un peu d'humour dans votre vie pro ou dans votre vie perso? Merci Christina, l'humour une arme clé. Ouais, si on se servait de l'humour, je sais pas, comme si c'était une arme, mais peut-être comme elle est une clé qui peut-être enlève quelques serrures et permet d'ouvrir quelques portes. Voilà, je pense que c'est plutôt cette ouverture-là que j'aurais tendance à lui donner. J'avais trouvé deux fils rouges, j'en ai trouvé en fait un troisième. Et on va voir si ça continue. Ouais, cette émission, elle est totalement en live. Elle est totalement en live, hein. C'est vraiment un rebond. Ouais, freestyle. On aurait pu l'appeler freestyle, tiens, ça serait intéressant. On pourrait l'appeler freestyle, cet épisode du podcast. Ouais, mon troisième fil rouge, c'était finalement sur les relations interpersonnelles. Ouais, c'est en fait le premier podcast, hein, c'était sur la relation entre un collaborateur et son patron. Le deuxième, celui qui n'a pas été enregistré sur les plateformes traditionnelles de podcast, mais qui était disponible pour ceux qui étaient présents sur LinkedIn et sur Twitch. Finalement, c'est la relation entre on appelle ça un animateur de podcast, waouh, et ses invités. C'est-à-dire que c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette relation quand il y a un moment un peu difficile, un peu charnière, et là c'était ce que j'appelle un moment de vérité, ouais, de relation interpersonnelle. Et puis le troisième, bien, c'était la relation entre consommateur, fabricant finalement, et je trouve que ce que fait Bilong finalement, c'est le liant. Et alors on pourrait dire c'est un site de e-commerce, mais c'est le liant finalement entre ceux qui veulent des produits plus durables et des fabricants qui sont un peu obligés d'évoluer, bien évidemment, mais peut-être qu'ils peuvent se servir de se dire, ben oui, ils nous font réfléchir et ils nous amènent à travailler, comme on dit, sustainable by design dès le départ. Donc, très intéressant, Alice.
Ouais, c'est sûr. Après, on peut avoir toujours l'impression que les choses vont pas assez vite, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça pour ramener tout le monde dans le même train, je dirais, ceux qui ne sont pas forcément aussi avancés et qui ont besoin peut-être de ces étapes-là pour, comment dire, prendre conscience, commencer à changer leur manière de faire.
Ouais, changer la manière de faire. On a, et là, et tu le soulevais un tout petit peu, finalement, le sujet aussi, dans ces produits et dans la vente des produits, je dirais, plus durables, il y a peut-être un sujet aussi, c'est de se dire, elle est où la place des influenceurs là-dedans? Est-ce qu'il y a des influenceurs sur les produits des plus durables, des produits qui sont plus alignés, en fait, avec la planète? Qu'est-ce que tu penses de l'importance des influenceurs pour faire bouger les choses?
Bah déjà, oui, tout dépend de la définition qu'on va prendre d'influenceur. On est tous des propres influenceurs de nos micro-nano-communautés. Mais c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même pas mal d'influenceurs qui sont concernés par le développement durable, l'écologie, et qui voudraient produire des contenus en lien avec ces domaines. Mais souvent, on va leur rétorquer qu'ils sont pas parfaits, donc pas légitimes pour produire sur le sujet. Mais je pense vraiment qu'il faut avancer, faut tous agir à la hauteur de ce qu'on peut faire si on veut vraiment, pour utiliser des grands mots, changer le monde, quoi. Donc déjà, arrêter de se cacher derrière des pratiques pires que les nôtres, justifiant que nos changements individuels, ils n'auraient pas d'impact, mais aussi arrêter de stigmatiser, entre guillemets, même de pourrir, ceux qui veulent faire changer les choses sous prétexte qu'ils incarnent pas la perfection. C'est pas le propos, quoi.
C'est
des sujets qui m'impactent beaucoup.
Christian qui rebondit, qui dit le syndrome de la perfection. Ouais, ça c'est un driver très complexe, en fait. Vous savez, le soi parfait. Je suis pas certain que le soi parfait, qui est toujours une quête c'est un peu le mythe de Sisyphe, parce que je sais pas si on pourra être parfait. Mais ce driver là, soi parfait, en fait, il met sur les épaules un truc de fou. Et je suis pas certain que ça soit quelque chose qui soit aidant. Au contraire, c'est peut-être quelque chose qui soit pesant, le syndrome de la perfection. Et puis on le voit bien, hein. Prenons la loi de Pareto, par exemple. Prenons la loi de Pareto. 80-20. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on avec 20% du temps, on peut faire 80% des choses. C'est super, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des effets de levier. Maintenant, si, pour faire les 20% supplémentaires, il faut faire 80%. Donc on voit bien la charge sur cette histoire de perfection. Et moi, j'avais un patron qui m'a appris un truc formidable, qui m'a dit un jour, cultive tes défauts. Voilà, il me dit, on peut pas être parfait. De toute façon, on pourra jamais être parfait. Donc, tu as des points qui sont perçus par les autres comme des défauts. Eh ben, peut-être que ce sont tes points de force. Donc, capitalise dessus. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fin de compte, peut-être que ça permet de ne pas perdre du temps à essayer d'être bon partout. Voilà, quand on est bon partout, finalement, on risque d'être moyen partout. Alors qu'en fait, si on accepte de dire, je vais lâcher un truc. Par contre, il y a un endroit où je veux vraiment être très bon, être excellent, me focaliser, être le meilleur, être là où je suis finalement dans ma meilleure zone. Voilà, le point qui fait que ça me différencie, le point qui fait que je suis vraiment moi-même. De toute façon, c'est pas la peine de copier les autres, tout est déjà pris. Donc soyez vous-même, c'est la meilleure chose. Qu'est-ce que tu penses de cette logique et de ce rapport qu'on peut avoir avec la perfection, Alice?
Oh, bah oui, complètement d'accord. Je repensais j'avais plus la citation ou même que ça servait, enfin, que personne ne pouvait être plus nous que nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est une vision un petit peu anti-couteau suisse. Pendant longtemps, on pensait qu'il fallait vraiment savoir un peu toucher à tout. Et c'est vrai que avec des technos comme le web, enfin, ça me fait penser à ça quand toi, tu le vois bien au quotidien en produisant ce podcast, tu dois être en même temps au four, au moulin, savoir, enfin, il y a, ou même les youtubeurs qui doivent maîtriser la vidéo, maîtriser le son, maîtriser l'interview, maîtriser l'image. Enfin, c'est vraiment, on a tous eu envie avec ces technos qui se simplifiaient de toucher à tout et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, touche à tout en tout, mais spécialiste en rien, alors que développer ce qui fondamentalement fait notre identité, c'est le meilleur moyen de pas ressembler à quelqu'un d'autre quand même. Et d'être plus utile aux autres et d'être plus complémentaire aux autres qui justement sont différents.
Ouais, c'est vrai. Ce que tu dis me fait penser aussi, j'ai croisé cette semaine sur, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière sur LinkedIn, un billet de Benoît Raphaël, hein, que vous connaissez, qui vient, d'ailleurs, qui viendra faire un débrief aussi, dans quelques semaines, ici même. Il a écrit un sujet sur les multipotentiels. En fait, il s'est découvert étant multipotentiel. J'ai trouvé ce billet très riche, forcément. Alors, je m'y suis retrouvé, évidemment. Et c'était intéressant de voir les commentaires des personnes qui étaient dedans. Il y en avait qui étaient, moi aussi, je suis un multipotentiel, c'est-à-dire que ben, j'adore exceller et j'adore multiplier des choses. Je me suis dit peut-être que multipotentiel est la nouvelle définition du slash gen. Vous avez la génération slash de ceux qui sont des slasheurs. Et puis dans les commentaires, d'autres qui disent ah non, c'est pas du tout ça, et nanana. Enfin bref, toujours pareil, le bruit sur Internet. Mais je vous encourage à aller voir peut-être ce billet de, je ne sais pas si je pourrais le mettre dans les notes d'épisode, de Benoît Raphaël sur le côté multipotentiel. C'est assez passionnant. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses. Je sais que toi, t'es un peu une multipotentielle aussi, Alice.
On a toute proportion gardée, mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, j'avoue, j'ai tendance à... C'est ce besoin de forcément tout mettre dans des cases. Est-ce qu'on est HPI? Est-ce qu'on est HPE? Est-ce qu'on est... Enfin, est-ce qu'on peut aussi voir qu'il y a une palette et qu'on n'est pas ou tout l'un ou absolument pas l'autre? Et je pense qu'on est tous un petit peu... Voilà, que tout, c'est pas... Voilà, c'est... On est peut-être dans un moment qui manque un peu de nuance où tout n'est pas blanc ou noir, mais à vouloir vraiment caser, classer tout dans tous les domaines. Est-ce une bonne chose ?
C'est une bonne chose. Regarde, bonne question aussi de Charles. Il me dit, est-ce qu'on statue par nous-mêmes le fait d'être multipotentiel ? Ouais, qui peut le dire ? On s'y retrouve peut-être. Alors, ça peut être rassurant de se dire, ouais, mais moi, j'arrive à me mettre là-dedans. Enfin, multipotentiel, finalement, même si c'est, on n'est pas dans les cases, ça reste quand même une case. Hein. Et puis voilà, bah, c'est, il nous dit, multipotentiel, c'est plein de cases en même temps. Et oh, ouais, voilà. Et merci à Christian qui vient de mettre dans le lien. Dans le lien, génial, Christian. Il vient mettre dans le lien si vous êtes sur, voilà, vous le voyez à l'écran si vous êtes sur LinkedIn et, ou sur Twitch, le lien pour le billet de Benoît Raphaël, ChatGPT, Innovation, Mindset, Activity. Voilà, vous avez tout ça.
Mais ce qui est plus que critiquable, c'est tout le business potentiel qui va arriver derrière avec des tests en ligne, etc., et tout le marketing associé.
Christina rebondit et dit c'était peut-être plus multifacette plus que multipotentiel. Comment tu réagis à ça ?
Ben oui, c'est les j'ai perdu le nom de cet auteur là, le multicasquette qui expliquait justement que selon les contextes, comment on allait se développer, on allait justement déjà pas montrer la même facette de nous-mêmes, mais également plus ou moins la développer selon le contexte dans lequel on évolue. Ah, un auteur hyper connu. Mais j'essaierai de le mettre en lien dans les notes de l'épisode.
Voilà, certains d'entre vous qui êtes présents l'auront trouvé. Tiens, Vincent nous dit multipotentiel, c'est pas pareil que slasher. Multipotentiel, c'est aussi une façon d'appréhender et se voir soi-même. Waouh, c'est pas mal ça. Slasher, c'est juste faire deux ou trois trucs en même temps. Ah non, pour moi, slasher, c'est faire plus que deux, trois trucs en même temps. C'est vraiment plusieurs palettes. Mais bon, on pourra en discuter plusieurs fois. À quel moment on s'arrête de dire, ça y est, ça vient passer. On est plus slasher, on est multipotentiel.
Mais on voit beaucoup le mot slasher pour parler de la dimension professionnelle d'une personne qui va avoir plusieurs, des fois, métiers en même temps.
Ouais, t'as raison. Donc, il y a peut-être une différence, en fait, entre les deux. Et je viens d'apprendre quelque chose entre slasher et multipotentiel. C'est pas tout à fait la même chose. Et merci, Vincent, d'avoir mis ça. Christian nous dit faire des trucs en même temps. Est-ce que c'est mal? Tiens, est-ce que c'est mal, Alice, de faire des trucs en même temps?
Bon, en tout cas, il y a quand même des études qui prouvent qu'on n'est pas si bon que ça, hein, pour faire plusieurs choses en même temps quand même, en général. Alors, en même temps, dans une vie, en même temps, peut-être, mais simultanément, pas sûr.
Voilà, simultanément, pas sûr. On arrive à la fin de l'enregistrement du podcast. On va mettre un petit jingle, voilà. Et puis après, on va rester avec celles et ceux qui sont présents pour faire le débrief, en fait, de savoir ce que vous en avez pensé. Je mets un petit jingle et on se retrouve tout de suite après pour ceux qui sont en direct sur LinkedIn et sur Twitch. C'est le débrief de la rédac.
Bonjour PPC.
Bonjour PPC.
Bonjour PPC.
Bonjour PPC.
Bonjour PPC.
Bonjour PPC.
Alors, on continue un tout petit peu, mes amis. J'espère que c'est bon. Bonne pioche de Vincent qui nous dit les multipotentiels vont se lâcher.
Ah, voilà. Vont se lâcher.
Elle est faite, celle-là. Elle est faite jolie. Elle est très, très belle. Et Laura rajoute en disant, mais c'est pas en même temps, c'est dans le même temps, en fait.
Voilà, ouais, exactement.
Oui, c'est ça. C'est pas faire des trucs en même temps, c'est les faire dans le même temps. Ouais.
Et c'est ça, c'est simultanément.
Ouais, ça ouvre une voie intéressante, ça aussi. Ce côté de pouvoir, j'irais finalement voir le temps d'une autre façon et te dire, ben, comment je peux arriver à faire ces choses-là. Alors, c'est vrai que ça crame un peu du temps de cerveau. Je pense que d'arriver à faire tout ça en même temps, ça crame un petit peu du temps de cerveau. Je sais pas ce que t'en penses.
Je suis officiellement slasheuse aussi avec 4 professions, mais voilà, c'est pas en même temps. Mais je pense qu'en même temps, ça peut cramer, voilà, le en même temps, ça peut cramer du temps de cerveau. En même temps, je pense que ça développe aussi des sans dire des tierces compétences, mais c'est vrai que le fait, quand on goûte quand même à beaucoup de choses différentes, ça nous éveille à pas mal de choses qui peuvent se retrouver. Un savoir dans un domaine peut se retrouver être applicable dans un autre.
Ouais, c'est vrai, bien vu. Ça c'est ça le côté multipotentiel aussi, c'est-à-dire que ce que l'on fait d'un côté, l'autre. Christian lance un petit peu un débat et dit c'est peut-être aussi les faire mal en même temps. Et je vois ce qu'il dit aussi. Il dit il faut du deep work, hein, c'est-à-dire c'est aussi une capacité à être extrêmement focus. Ouais. Moi j'ai eu un patron qui était assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il avait une capacité à te voir un quart d'heure, 20 minutes, mais quand c'était 20 minutes, il ne faisait que ça, avec des très grandes responsabilités, mais il ne faisait que ça, c'était 20 minutes uniquement pour toi. Mmh. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire que, alors que tu peux avoir des patrons qui vont répondre à machin, leur boss les appelle, etc., enfin, qui vont être du multitâche, donc ils ne sont pas avec toi. Et lui, il avait de très grandes responsabilités, et il arrivait à faire en sorte, quand il voyait quelqu'un, c'était juste le temps pour ça, et après il passait à autre chose. Mais c'était extrêmement focus. C'était un peu perturbant d'ailleurs, parce que après il passait à autre chose. C'était fini. Voilà, c'était fini. Et puis il fallait partir de son bureau parce que c'était fini. C'était over. Mais c'est passionnant parce que cette capacité à être complètement en profondeur avec toi sur tes sujets, à les connaître, à être dedans, à pas être en surface uniquement.
Et wow, être vraiment bravo. Focus.
Ouais, vraiment focus. Et donc j'aime bien le propos de Christian qui dit bah il y a effectivement on peut faire plusieurs choses en même temps. Et puis sur certains sujets, deep, focus. Et ça, c'est, je pense que c'est un sujet intéressant. Tiens, Charles, je te pose une question. Allez.
Ouais. Je voulais rebondir juste un petit peu là-dessus. Le côté aussi, c'est vrai que ça, on pourrait mettre ça en opposition avec un peu la sérendipité et le fait de voir un truc qui nous... Pardon, ça va qu'on n'est plus en enregistrement. Voir un truc qui nous fait penser à un autre truc, qui nous fait penser à un autre truc, mais aussi le côté... Cette capacité à focusser, je pense qu'elle se développe, elle se travaille. Moi, je sais que on avait fait des épisodes sur tout ce qui était Pomodoro, mais dans le côté plutôt comment gagner du temps dans une journée en ayant vraiment des périodes très très focus. Et donc c'est vrai que ça sert aussi à ça, mais je pense que c'est un vrai besoin de deep, de se concentrer pour être à fond sur une tâche.
Ouais, c'est assez juste, et je pense qu'il faut le faire. Il faut arriver à les deux en fait. Peut-être qu'il faut arriver avec jongler les deux. Il y a les temps de deep, et puis il y a des temps où effectivement on peut être multitâche. Petite question personnelle que te pose Charles, Alice. Il dit, quand arrives-tu à prendre le temps pour voir si certaines pratiques dans un domaine sont applicables dans un autre en jonglant avec tes 4 activités?
Alors, je vais répondre que pour ma part. Je ne prends pas de temps pour m'en rendre compte. C'est quand je suis dans l'action que je vais faire quelque chose et je vais faire « Ah ben oui, mais ça, j'y ai pensé parce que je m'étais retrouvée à faire ça dans l'autre domaine. »
Ouais, je partage vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est quand on fait pas mal de choses différentes, voilà, ce sont des métiers, des activités, en fait, on développe un geste, une habitude, une façon de faire, une façon de voir. Et là où c'est magique, c'est que quand on est face à une situation qui est différente, je pense qu'alors elle peut-être le résume en disant c'est une sorte de capacité d'adaptation, mais on va aller puiser dans ce que l'on a appris, dans ce que l'on sait faire, et on fait le joint en fait, c'est-à-dire qu'on vient amener d'un univers dans l'autre cette capacité et qui fait gagner du temps. Et là, les personnes qui sont dans une heure disent, mais comment tu sais faire tout ça? Comment tu sais faire tout ça aussi vite? Et là, il y a ce côté magique. Mais c'est parce que c'est la pratique. Et alors, je pense que c'est aussi lié au fait d'être des doueurs, quoi, d'aimer faire. Parce que si on aime faire, bah, c'est là où on apprend. Je sais pas si tu ressens la même chose de ton côté.
Oui, complètement. Après, il y a un côté plus factuel aussi, c'est l'utilisation de certains outils où on se rend compte, notamment digitaux, où en les utilisant, on se dit « Ah, mais ça pourrait m'être utile dans tel domaine » ou même des pratiques professionnelles qu'on peut retrouver dans la vie perso. Enfin, quelqu'un qui a déjà fait à forte dose de la gestion de projet, le jour où il organise un immense anniversaire ou un mariage, il a des facultés que tout le monde n'a pas quand même. Enfin…
Ouais, c'est vrai. c'est compliqué à organiser d'ailleurs. Alors, mes amis, vous qui êtes en direct, allez, c'est le moment un peu du débrief. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle version totalement live voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débrief finalement nouvelle formule? Dans vos commentaires, on attend. On aimerait bien voir ce que ça peut donner. On compte sur vous. En attendant, vos commentaires, on va les prendre. Je vous donne un peu le programme de la semaine prochaine. Vous l'avez compris, ce débrief, on a besoin que vous soyez présent, vous écoutiez au moins les épisodes de la semaine pour pouvoir rebondir, trouver un fil rouge, nous donner une base pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin et rentrer dans cette grande conversation telle qu'on vient de faire aujourd'hui. Perso, je vous avoue que j'ai pris un kiff d'enfer, c'est génial, j'ai adoré se lancer sans fil. Lundi matin, on recevra Angélique Gérard, vous la connaissez probablement, elle est présidente de la STEM Academy, c'est l'ancienne directrice de la relation abonnée de Free. On va parler de la symétrie des attention et de symétrie des émotions. Ça sera pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération, mardi 21 au petit matin 7h20 sur Twitch et sur LinkedIn. On va parler de comment créer une expérience réussie dans le métaverse avec Aurélie Bensoussan. Elle est cofondatrice de Metaverse Studio. Elle sera avec nous mardi matin. Mercredi, on va parler d'un beau sujet. Écrire, le sujet, il est assez génial. Écrire pour le web avec les IA génératives. Oui, avec les chat GPT, les GPT-4 maintenant. Écrire pour le web, comment ça marche? L'invité, ça sera pour le podcast Le Digital pour tous. C'est Muriel Gagny, auteur de l'ouvrage Écrire pour le web. C'est paru chez Duno. Elle en connaît un rayon. Elle était venue quelques années d'ailleurs maintenant dans ce podcast. On va la faire revenir et elle va nous parler un petit peu de ce qui se passe avec les IA générative. Alors, à vos commentaires, mes amis, on va démarrer peut-être. Allez, Alice, qu'est-ce que tu as pensé de ce format? Et je voulais te remercier parce que tu t'es lancée dans le vide aujourd'hui, ou presque. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Oh, d'un côté, j'ai vraiment beaucoup apprécié, vraiment. Surtout même, je dirais presque la fin avec les commentaires, enfin, comment dire, de pouvoir rebondir sur les commentaires, l'impression qu'on échange vraiment tous ensemble. Après, c'est vrai que moi, tu me connais, hein, je suis déjà pas mal préparée. Donc là, je vois un petit peu toutes les sources, tous les sujets dont on n'a pas parlé. Oh, je pourrais pas leur parler de tel bouquin, je pourrais pas leur parler de tel podcast. Donc il y a un petit côté un peu frustrant de, bah, comme on suit pas une ligne directrice, bah, forcément, ce qu'on avait prévu de délivrer ne le sera pas. Mais d'un autre, c'est très sympa. Et disons que si les poditeuristes derrière ont apprécié, ce sera avec plaisir que je m'en prêterai à l'exercice.
Ah ben génial, ben écoute, ça sera avec grand plaisir. Moi j'ai vraiment aimé, c'est très spécial, en plus ça change totalement du cadre, on est un peu hors cadre dans cette histoire-là, mais j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de la co-construction, c'est ce que j'appelle vraiment du live conversationnel, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir prévu quelques sujets, et puis on va rebondir, on va changer, on va s'adapter et ça demande effectivement une élasticité, une très très forte élasticité. Je sais pas trop, je le publierai je pense cet épisode-là sur le Digital pour tous. Il faut que je remonte parce que j'ai raté un enregistrement au début, donc il va falloir que je me débrouille pour faire je ne sais pas quoi. On va trouver, mais c'est ça, c'est la beauté des outils et du direct. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc incroyable qui finalement permet d'aller un cran plus loin. Et puis c'est ce côté, ben on a préparé des choses et puis peut-être que Jean-Manuel dit il faut peut-être le partager en commentaire. Je sais pas s'il faut le faire. C'est-à-dire qu'en fait je pense que le truc, garde-les, et ça va resservir parce qu'il y aura un moment où ça rebondira. Et je pense que c'est aussi cette qualité de construction là, moi j'aime beaucoup. Donc je voulais te remercier, je voulais remercier Laura, je voulais remercier toute la rédac, je voulais remercier Jean-Emmanuel, Christian qui était là ce jour-là quand on a eu cette idée un peu folle de se dire allez, on pivote, on se réinvente, on ose changer les règles, se mettre un peu en danger, mais ça fait du bien de se mettre en danger. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et merci beaucoup, Alice, parce que c'est pas facile de faire la première crêpe, mais c'est un plaisir de faire la première crêpe ensemble. Et on pourra l'améliorer pour la suite.
C'est souvent pas la plus belle, revenez la semaine prochaine.
Non, mais moi, c'est la meilleure parce que c'est la première.
Je l'ai vu très bien.
Et puis elle ouvre cette première crêpe, elle ouvre des trucs formidables parce qu'elle donne envie d'en manger une deuxième. Voilà. Charles nous dit c'est un format rafraîchissant, belle adaptation de nos débriefeurs du jour, une sorte de live off pour digresser et partager les pensées du moment. Anne nous dit c'est beaucoup plus participatif. Ouais, c'est vrai. Et Fabrice nous dit c'est une discussion de café matinal mais sans le point météo. Ouais, oui. J'ai pas regardé la météo.
Regardez la météo non plus, je sais rien des horoscopes, j'amène rien. Sur l'actu du jour.
Voilà, il va faire un peu frais, il va faire un peu beau, il fera beau dans nos cœurs. Je pense que c'est assez magnifique. Mes amis, merci beaucoup. Merci Alice, il est 8h04. Oh là là, Monseigneur, il faut y aller. Grand merci à toi, grand merci à vous tous. On se retrouve très très vite. On se retrouve lundi matin, 7h20, avec Angélique Gérard. On parlera de symétrie des attentions, de symétrie des émotions. Et puis, passez un bon week-end. Et puis surtout d'ici là, faites-vous plaisir. Vraiment plaisir. Ciao, ciao, ciao. Salut, salut.